de Moïse caché au creux du rocher. Vous vous rappelez? Moïse demande à Dieu, montre-moi ta gloire. Mais on ne peut pas voir Dieu et vivre. Alors il a fallu qu'il aille au creux du rocher, c'est-à-dire dans une caverne. Hein, nous, des fois, le creux du rocher, on pense dans une crevasse, mais le creux du rocher, il y avait beaucoup de creux dans les montagnes rocheuses qui constituaient des sortes de grottes. Alors Moïse est dans la grotte, et quand Dieu passe, il ferme la grotte avec sa main. Et une fois passé, Moïse peut voir Dieu de dos, de loin, et il entend proclamer sa bonté. C'est rassurant, amen. Il n'entend pas proclamer sa sévérité, sa sainteté, mais quelque part sa gloire se voit dans sa bonté et dans sa grâce. Amen. Nous, souvent, nous pensons que la gloire de Dieu se voit dans sa puissance et sa force, mais ce que Dieu a montré à ce Moïse caché, c'est sa bonté. Amen. Et certainement que ce dont nous avons besoin, c'est de la grâce de Dieu. Parce que sa puissance nous pulvériserait, mais son amour nous sauve. Amen. Et je voulais m'entretenir avec vous ce matin sur ce passage de l'Épître qui parle de notre vie cachée en Christ. Moïse a dû être caché par Dieu, et nous aussi, nous avons besoin d'être cachés dans ce rocher qu'est Jésus-Christ. Amen. C'est notre protection, Jésus-Christ. C'est notre refuge. Protégé pour être au bénéfice de la proclamation de la bonté et de la grâce de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, par cette expérience de Moïse, cela parlait de la nôtre, qu'un jour tous les croyants, pas que Moïse, seraient cachés en Christ pour entendre proclamer la bonté et la grâce de Dieu. Grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors lisons ce passage dans Colossiens. Colossiens, lisons-le ensemble. Chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Notre vie est cachée avec Christ. Amen. Nous sommes avec quelqu'un. Parce que parfois, si l'on est caché, qu'on est tout seul, c'est pas forcément toujours agréable. Mais comme le dit ce cantique, non, jamais tout seul, je ne suis jamais tout seul. Nous sommes cachés avec Christ. Et l'Écriture explique en quel contexte ressuscité avec lui. Caché avec Christ, qui est où? Parce que si nous sommes cachés avec Christ, c'est que Christ lui aussi est dans cette cachette avec nous. C'est que Christ lui-même est caché. Et où est-il caché dans ce passage? Eh bien, il est à la droite de Dieu, le verset premier le dit. Il est caché dans les cieux, à la droite de Dieu. Et nous sommes cachés avec Christ, en Dieu. C'est-à-dire que nous sommes à côté de lui, dans les cieux. Paul le formulera même beaucoup plus explicitement en Éphésiens. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Notre caverne qui nous cache n'est pas sur la terre, ce sont les cieux mêmes. Amen. Et cette cachette-là, personne ne peut la trouver. Personne ne peut la forcer. Nous sommes cachés avec Christ qui est à la droite de Dieu et nous sommes, en grâce à lui, en Dieu. Merci Seigneur. En Dieu. Alors ça nous parle de notre identification, d'après la Bible. Alors, vous me direz peut-être, pas d'après ce que je vis, ce que je ressens, mais d'après la Bible. Nous sommes morts avec Jésus-Christ, ressuscités, et même Romains chapitre 8, verset 30, nous dit que nous avons été glorifiés. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Ce que vous vivez ou ce qui est écrit? C'est ce qui est écrit. Amen. Notre foi ne repose pas sur notre expérience ou sur la compréhension que nous avons de ce que Christ a fait. Parce que malheureusement, les uns et les autres, nous ne sommes pas tous avancés dans la même compréhension de l'œuvre de Jésus. Nous croyons tous en lui, et cela est suffisant pour être sauvé. Son nom soit béni. Mais dans cette foi, il y a une intelligence de la foi qui est différente selon les uns et les autres, selon la maturité de la vie chrétienne. Mais que l'on ait bien assimilé ces choses, que l'on vive pleinement ces choses, ou que l'on débute, que cela nous semble un peu même théorique, un petit peu éloigné, en Jésus-Christ, nous tous, nous avons été mis à mort, ressuscités et glorifiés. Et notre vie, dans cette gloire, est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Croyez ces choses. Et vous les vivrez de plus en plus. Mais il ne faut pas d'abord essayer de comprendre, il faut croire. Nous ne sommes pas des gnostiques. Nous ne pensons pas que la vie chrétienne dépend de la connaissance que nous avons même de l'Écriture. C'est la foi. C'est la foi qui nous permet de vivre ce qui dépasse l'entendement de toutes les façons. Qui ne peut pas être seulement appréhendé par l'esprit humain, mais seulement vécu par l'esprit de Dieu. Amen. Alors, nous sommes appelés à avoir les pieds sur terre, mais le cœur dans le ciel. Amen. Appelés à vivre avec Jésus. Ô pense, disait un ancien cantique, ô pense au royaume des cieux. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que de vivre la résurrection de Jésus, par exemple, pour essayer quand même un peu de vous aider? Eh bien, la Bible dit que Christ est ressuscité pour notre justification. Vraiment, dans la foi, progresser dans cette identification avec la résurrection de Jésus, c'est de plus en plus comprendre et vivre notre justification, par exemple. C'est un aspect de cette vie de résurrection. Vous êtes venu ce matin et je ne suis pas prophète, mais je suis sûr que vous êtes venu avec des problèmes, avec le mal et le péché. Mais qu'est-ce qui vous permet de lever la tête, de lever les mains vers le ciel et de vous approcher sans mauvaise conscience de Dieu? C'est que vous êtes justifié par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et vivre cette résurrection de Jésus-Christ, s'identifier à celle-là, c'est de plus en plus vivre dans cette vie justifiée. La vie ressuscitée, c'est la vie justifiée. Alléluia. Et nous avons les uns et les autres besoin de grandir, parce que nous fonctionnons bien plus souvent d'après les principes de la loi qui est périmée, et pas suffisamment selon les principes de la foi. Nous vivons bien souvent dans le faire et le mérite plutôt que dans la foi et les yeux fixés sur l'œuvre de Jésus. Amen. Alors il faut mourir à nos péchés, mais il faut vivre dans la résurrection. Si vous n'êtes que dans la mort, vous serez ce matin dans l'abattement.
dans le gémissement, dans la mort. Mais Christ n'est pas seulement mort. Il ne doit plus être sur une croix, sur un crucifix. Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous ne sommes pas seulement appelés à mourir au péché, c'est-à-dire lutter contre le péché. Et cette lutte, elle est parfois comme l'agonie de la croix, difficile, lente, laborieuse. Nous sommes certainement appelés à vivre cette mort, mais aussi la résurrection, qui nous permet premièrement d'être certains de notre justice, et secondement, la résurrection, c'est aussi la régénération. C'est la vie du Saint-Esprit. Notre identification avec la résurrection de Christ, c'est l'abondance de la vie de l'Esprit, c'est vivre cette vie d'en haut, c'est la vie du ressuscité qui est en haut. Amen. Caché avec Christ, le ressuscité. Nous sommes ressuscités et cachés auprès du ressuscité. Appelés à vivre l'Esprit du ciel qui est l'Esprit de Dieu. Amen. Et non pas l'Esprit de l'homme, mais l'Esprit du ciel. C'est beau, la doctrine chrétienne. L'œuvre de Jésus-Christ qui spirituellement a déjà, en anticipation de la fin ultime du plan de Dieu, réconcilié le ciel et la terre, même si nous savons que nous attendons, comme le dit l'Écriture d'après le mot grec, la récapitulation de toutes choses, où les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront en pleine harmonie. Dieu soit béni. Notre salut personnel est déjà une prémisse de ce que Dieu fera pour tout l'univers, où le ciel et la terre seront pleinement réconciliés par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a la récapitulation de toutes choses. Son nom est glorifié. Alors, cette vie cachée, on peut y voir trois aspects. Tout d'abord, une vie secrète. Quand quelqu'un est caché, on ne le voit pas. C'est secret. Je pense que notre vie chrétienne ressemble à l'iceberg. Le plus important ne se voit pas. Les 9/10 sont immergés. Alors, immergé, il y a le mot mer, c'est dans la mer, mais nous, c'est dans le ciel. Alors, in celeste, je ne sais pas comment il faudrait dire. Notre vie est dans les cieux au 9/10. Amen. Et ça nous parle des deux aspects du règne de Jésus-Christ. Quand est-ce que le règne de Jésus-Christ a commencé? Peut-être, vous me direz, il commencera quand il reviendra. Ah, faux. Faux. Il a déjà commencé son règne. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Amen. Tout l'enseignement du Nouveau Testament nous dit que son règne a commencé par son intronisation même à la croix. La croix était comme son trône. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne. Et après ce trône, il s'est élevé, le roi porte, élevez vos linteaux, disait un psaume messianique, pour que passe le roi. Quand Jésus est ressuscité, a été glorifié, le ciel s'est ouvert, il est passé, et maintenant il règne. Il a dit, voici, j'ai reçu tout pouvoir dans les ciels et sur la terre. Il est le roi des rois dans l'Apocalypse. Alléluia. Son règne a commencé et il règne déjà maintenant. Mais c'est un règne caché. C'est un règne céleste. Bien sûr, il a aussi le pouvoir sur la terre, mais il agit invisiblement par la puissance du Saint-Esprit, même si les effets de cette puissance invisible se voient bien. Des âmes qui se convertissent, des malades qui sont guéris. Mais cette action de Jésus est comme cachée, secrète, parce que nous sommes cachés avec lui dans les cieux. Et la Bible enseigne qu'il règne et il règnera. Quand il reviendra, son règne invisible deviendra visible. Tout œil le verra. Amen. Et il règnera sur toutes les nations. Dieu soit béni. Alors, il est important de savoir dans la théologie biblique en quel temps nous sommes. Nous sommes dans le temps du règne caché, du règne secret. Nous sommes dans ce temps-là où nous-mêmes, nous vivons cachés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous-mêmes, chrétiens, nous ne serons jamais reconnus par le monde. Mais jamais. Le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Il faut accepter qu'en étant chrétien, on soit caché du monde. Jésus n'est pas reconnu par le monde aujourd'hui. Il n'est reconnu que par les siens. Même qu'il règne pourtant. Ce n'est pas l'heure pour le moment que tout genou fléchisse. C'est quand il reviendra. Mais tant qu'il n'est pas revenu, nous, avec lui, nous devons accepter le caractère caché, secret et quelque part méprisé de notre foi. Être caché avec Christ dans les cieux, quelque part, c'est comprendre que le monde ne nous reconnaîtra jamais et que nous devons arrêter d'essayer de trouver auprès de lui de la reconnaissance. Amen. Ce qui compte, c'est la gloire de Dieu, pas la gloire des hommes. Amen. La gloire des hommes n'a pas du tout d'importance. Vous savez, quand on est dans le ciel, ben il est écrit que Dieu rit dans les cieux. Dieu rit dans les cieux. Il rit en voyant les chimères des hommes. Quand nous sommes dans les cieux, vous savez, la promotion que le patron veut donner est parfois lance comme un steak au milieu des chiens pour voir quel est celui qu'il dévorera le premier. Ben nous, on n'est pas des chiens. On rit dans les cieux. Avec Dieu, on rit. On se dit, mais ça ne m'intéresse pas. Quand on vit dans les cieux, on est caché de ces choses-là. Amen. Oui, plus que nous le pensons, malheureusement, nous vivons sur la terre et la gloire humaine, terrestre, nous attire, nous intéresse parce que nous avons besoin de nous élever un peu plus haut avec Jésus-Christ. Alléluia. Et de vivre caché avec lui. C'est bon d'être discret, humble, et de faire les choses cachées. Et parfois, Dieu permet même que votre bonne idée soit reprise par quelqu'un d'autre. Et évidemment, cette personne oublie de préciser que cela vient de vous. Et présente son idée, et ça marche. Alors nous, des fois, on est là, on se dit, oh, il m'a piqué mon idée. Il s'attire les honneurs. Ben, Dieu le permet parfois. Pour nous tester. Il nous regarde, dit alors, ça va? Ça passe bien? Ah, Seigneur, maintenant, mais nous, on a beaucoup plus que tout cela. Amen. Il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur. Sinon, ça va être la bagarre sur la terre, dans nos membres, avec le péché, avec la chair. On ne va pas s'en sortir. On n'arrivera pas à s'améliorer. On n'arrivera pas à se débrouiller et à se débattre. On n'arrivera pas. Le seul moyen, c'est de courir se cacher auprès du Seigneur. Alléluia. Et c'est lui qui fera son œuvre. Notre Père qui voit dans le secret, te le rendra. Vivre dans le secret avec Christ, c'est certainement vivre aussi dans le secret de la prière. Amen. Si le monde ne reconnaît pas Jésus, le monde ne nous reconnaîtra pas. Arrêtons d'espérer là où il n'y a pas à espérer. Jésus-Christ est notre espérance. Amen. Ensuite, deuxièmement, on pourrait dire qu'une vie cachée, c'est une vie protégée. Alors, peut-être moi ici, j'en ai pas encore vu, mais dans ma région native, il y a des endroits où il y a plein de blocos allemands. Plein. Il faut dire qu'il y avait une espèce de diversion. Hitler était persuadé qu'on attaquerait plutôt dans le Nord-Pas-de-Calais qu'en Normandie. Alors, ils ont coulé des blocos pour cacher les soldats allemands. Une vie cachée, c'est une vie protégée. Amen. Le ciel ne peut pas être cambriolé. C'est ce que Jésus a dit. Amassez-vous des trésors dans les cieux, là où notre vie est cachée avec Christ, Parce que là-bas, il n'y a pas de voleurs qui percent. Alors les jeunes aiment beaucoup parfois, oh, parfois j'aime bien aussi, des films où on voit une équipe de cambrioleurs qui arrivent à faire quelque chose d'incroyable pour percer les trésors les plus inaccessibles. Mais dans les cieux, il n'y a aucun cambrioleur. Alléluia. C'est bien protégé. C'est la meilleure des banques. C'est la banque céleste. Dieu soit béni. Ici-bas, on peut tout perdre. L'argent se fait des ailes, nous dit l'Écriture. Mais dans les cieux, nous avons une banque bien protégée qui ne peut pas être cambriolée. Et le ciel, certainement aussi le ciel de Dieu. Je ne parle pas du ciel atmosphérique. Il y a eu un cosmonaute qui a eu une parole un peu stupide sans s'en rendre compte. Quand il a fait le premier voyage dans l'espace, il a dit « j'ai pas vu Dieu ». Ben, bien sûr qu'il n'a pas vu Dieu, parce que Dieu, il est bien plus élevé que la simple atmosphère autour de la Terre. Il est bien au-delà, alors au-delà ou parallèle à, j'en sais rien, mais je sais que Dieu habite une lumière inaccessible. Alléluia, parce que c'est écrit dans la parole. Alors, le ciel est même protégé des problèmes chimiques, de la rouille, de la corrosion. C'est écrit, Jésus l'a dit aussi, pas de cambrioleur et pas de rouille. C'est un ciel pur. Il n'y a pas de pollution. C'est un ciel où rien ne peut se dégrader. Merci Seigneur. Ici, tout se dégrade. Tout se pourrit. Et le péché, c'est la plus grande force de corruption dans le monde et dans nos vies des fois. Le péché nous dégrade, nous avilit dans le ciel. Et il n'y a plus de rouille. Et il n'y a plus de péché. Alléluia. Et vivre caché avec Christ dans les lieux célestes, c'est vivre non la dégénération de la pollution de la terre, mais la régénération du Saint-Esprit. Amen. C'est que dans le ciel qu'il y a la régénération. Sur la terre, tout s'use, vieillit et dégénère. Il n'y a que le ciel qui est un monde où il y a la régénération. Alléluia. Là où Christ est assis. Protégé contre qui ? Protégé du diable. Amen. Notre vie, elle est cachée avec Christ, en Dieu. C'est le nom de Jésus qui fait fuir tous les démons. Amen. Un chrétien ne peut pas être possédé. Allez chercher les démons dans les lieux célestes où est Jésus-Christ. Et il n'y en a pas. Il n'y a que Dieu, son Fils, et ceux qui lui sont associés par la foi, les croyants. Alléluia. Oui, notre vie, elle est cachée en Christ, c'est-à-dire qu'elle est protégée de l'adversaire. Je pense qu'elle est protégée des soucis. Elle est protégée de la tristesse parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel. Alléluia. Et ne trouvez-vous pas des fois que nous avons bien besoin de nous élever quand on est en souci, dans des peurs ? De respirer une autre atmosphère. Nous respirons des fois une mauvaise atmosphère. Il faut l'air pur du ciel. Amen. Prendre une bonne bouffée de l'air céleste par le ministère du Saint-Esprit. Et c'est curieux, mais quand on prend cette bouffée, la tristesse peut s'en aller, l'inquiétude peut partir. Ben oui, là on est caché avec Jésus-Christ à côté de nous. Alléluia. Et dans les lieux surcélestes même. En grec, dans Éphésiens, c'est les lieux surcélestes même. Alors, on va prendre un exemple maintenant dans 1 Roi, chapitre 17, d'un homme qui a été caché. Vous voulez bien, c'est Élie. 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi 17. Versets 1 à 6. 1 Roi 17, verset 1er. Élie, 1 Roi 17, verset 1er. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad,
dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, alors c'est curieux qu'ils ne prennent pas pour eux, le matin, et du pain et de la viande le soir. Bon, ils ne mangeaient pas le midi. Et ils buvaient de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Élie est demeuré introuvable pendant longtemps. Parce que quand Dieu cache, Dieu cache. Alléluia. Élie a été caché par Dieu et dans cette cachette, il était réduit quand même à l'inactivité. Et cela m'a interpellé quand, il y a un certain temps, j'ai lu ce passage. Je me suis dit, bon, c'est bien, on se souvient de ce miracle quotidien et on en est émerveillé tous les jours. Les corbeaux venaient le nourrir. C'est fabuleux, oui. Mais concrètement, toute la journée, il restait au même endroit, il était comme prisonnier de ce lieu. Et son activité était réduite au minimum. Il était là, caché, seul, avec Dieu. Il ne pouvait plus exercer son ministère en Israël. Il ne pouvait plus être utile, dirait-on. Alors pourquoi prendre ce passage ? Eh bien, parce que j'aimerais quelques instants que nous réfléchissions au plus important dans la vie chrétienne, c'est d'être caché et pas forcément toujours actif, utile. Il faut être avant de faire. Et parfois, Dieu permet qu'on ne puisse plus faire ou moins faire pour retrouver ce que l'on doit être, pour retrouver même Dieu dans la solitude de l'inactivité. Amen. Oui, nous sommes dans le train de ce monde. J'aime bien cette expression de second. Le train de ce monde. À mon avis, le train de ce monde, ce n'est pas une locomotive à vapeur. C'est plutôt le TGV. N'avons-nous pas besoin dans cette vie cachée, je l'ai déjà dit, mais je le répéterai encore, n'avons-nous pas besoin de nous arrêter pour être avec le Seigneur? Le plus important, c'est d'être avec Christ, amen, plutôt que de faire beaucoup pour lui. Maître, n'avons-nous pas? Je vous ai jamais connu. Alors bien sûr, il faut avoir les pieds sur terre, comme je le disais, nous devons faire face. Mais cette semaine, avez-vous eu plutôt une vie cachée avec Christ ou une vie hyperactive? C'est bon d'être courageux et travailleur, mais ne sommes-nous pas appelés quand même à savoir nous arrêter pour nous cacher en Jésus-Christ? Je sais que ce que je vous dis, c'est beaucoup. Parce qu'on a pris des mauvaises habitudes. Et ce n'est pas demain la veille qu'on aura le courage de certaines décisions. Mais si au final, on perd l'essentiel pour l'accessoire, il est nécessaire de retrouver cette cachette avec Christ en Dieu. Amen. L'Apocalypse parle de l'église d'Éphèse. Et dans cette petite épître, Dieu, le Seigneur, dit à son église, je sais
que tu as de la persévérance. Tu as éprouvé les apôtres qui n'en étaient pas. Tes œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est Apocalypse 3, si vous voulez vérifier, tandis qu'on le partage. Ah oui. Éphèse était une assemblée qui était active, une assemblée qui avait persévéré dans des combats. Mais en route, elle avait perdu l'essentiel, l'amour premier. Une traduction nous aide à mieux comprendre l'amour que tu avais au début. Qu'est-ce que c'est que le premier amour? C'est l'amour qu'on a au début. Alléluia. Avant de faire plein de choses pour Dieu, et avant de combattre même pour Dieu, vous savez, j'ai peur que dans les combats que vous avez vécus, que nous pouvons vivre, on ne soit pas sorti indemne de ces difficultés. Parfois, on y laisse notre premier amour. Et alors là, je crois qu'il faut alors avoir l'honnêteté et le courage de dire, Seigneur, ça m'étonne dans cette Apocalypse 3, souviens-toi où tu es tombé, souviens-toi. Des fois, il faut avoir le courage de dire, Seigneur, dans tel domaine, dans tel combat, dans telle activité, j'ai perdu quelque chose de mon amour pour toi. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec passion. Ça a pris trop de place dans ma vie. C'était quelque chose que tu me demandais de faire. C'était quelque chose de bon. Et je remets pas tout en cause. Mais je reconnais, et ça on a du mal, vous ne trouvez pas, que quand on doit faire quelque chose, on a du mal de ne pas être trop entier, passionné. Et tout y passe, et on ne pense plus au Seigneur. On a du mal à faire quelque chose dans la foi. Quand on fait quelque chose dans la foi, on reste en communion avec le Seigneur. Son amour nous est renouvelé. Amen. Et je crois que des fois, on peut dire, Seigneur, là, je reconnais... Je continue ma route avec toi, mais j'ai besoin de retrouver l'amour que j'avais au début. Avant que je sois déçu par l'Église dans l'Église, ou avant que je sois essoufflé par ma vie trop active. Seigneur, je veux retrouver cette cachette dans le ciel. Je veux avoir à nouveau une vie cachée. Une vie cachée avec toi dans les lieux célestes. Amen. Vous savez, le plus important dans la vie chrétienne, c'est l'amour. C'est l'amour pour le Seigneur. Amen. Et je crois que toujours le Seigneur renouvelle ceux qui s'approchent de lui. Alors, Élie était dans une certaine inactivité et dans un exemple de sobriété quand même, hein. Parce que il était nourri que quand Dieu le voulait, et puis ses vêtements ont été réduits au minimum. L'apôtre Paul dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Amen. La nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Et on a pour beaucoup d'entre nous, quasiment tous, beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Même parfois de trop. De trop. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Vous savez, j'ai connu les deux. J'ai connu des années de pauvreté et j'ai connu des années d'abondance par un travail qui me rémunérait très bien. Eh bien, je peux vous dire qu'avoir plus d'argent ne rend vraiment pas forcément plus heureux. Et c'est même plus compliqué à gérer. Parce que l'avantage quand on n'a pas d'argent... c'est qu'on a beaucoup moins de possibilités, donc de tentations. On ne peut que manger, dormir et aller à l'église. Alléluia. Mais quand on a beaucoup plus, on peut en faire des choses. Mais prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Et excès du manger et du boire, ce n'est pas que la table, les excès d'une vie trop confortable, mais que nous puissions au contraire préférer la vie céleste. Alors pour revenir et pour terminer avec Colossiens chapitre 3, on y revient, le verset 4 nous dit que quand Christ paraîtra, alors nous paraîtrons avec lui dans la gloire. C'est le verset 4. Amen. Ça, c'est notre espérance. Notre espérance, c'est la gloire à venir. Alléluia. C'est le retour de Jésus. Merci, Seigneur. Et notre espérance, c'est que ça sera au bon moment que Dieu nous glorifiera pleinement. Amen. Parce que si aujourd'hui on est glorifié sur la terre, ça va nous tourner la tête. Ça va nous éloigner de Dieu. Il n'y a qu'un seul moment où nous pourrons être glorifiés, c'est quand Jésus-Christ reviendra. Amen. Quand il reviendra, il sortira, entre guillemets, permettez-moi de parler d'une façon un peu familière, il sortira de sa cachette. Il paraîtra. Et la Bible dit, nous paraîtrons avec lui. Alléluia. Oui, nous ne serons pas toujours méprisés. L'Église ne sera pas toujours persécutée. Les chrétiens ne seront pas toujours moqués. Un jour, les chrétiens seront honorés et glorifiés. Et l'un des aspects de l'enfer, c'est que tous les réprouvés constateront notre gloire et leur humiliation à eux. Avant d'être glorifiés, il faut savoir être humble, dit le proverbe. Amen. Pour nous, la gloire, c'est quand Jésus-Christ reviendra, et pas avant. Et pas avant. Mais quelle gloire! Ça vaut la peine d'attendre. Son retour, ce n'est pas que la manifestation de sa gloire, ce sera aussi la manifestation de notre gloire. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Des pécheurs comme nous, sauvés et glorifiés devant tous. On a envie de dire, comme Pierre, « Non Seigneur, pas moi !» Mais si, c'est la participation à la personne et à la vie de Jésus-Christ. Alléluia, son nom est béni. Alors nous croyons que cette espérance nous permet de nous sanctifier, que celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Et puis on terminera avec les conséquences, versets 5 à 8, on ne les a pas lus, verset 5, « Faites donc mourir ». Alors la débauche, l'impureté, les passions, et verset 8, « Renoncer à colère, l'animosité, méchanceté ». Bon, tout ça, ce sont les conséquences. Alors ça, il faut vraiment qu'on le comprenne de plus en plus, c'est le ciel qui commande à la terre. Il y a un verset qui a été très mal traduit, c'est « Tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel ». C'est un verset qui a été très mal traduit, parce qu'en réalité, dans le texte original, c'est tout à fait le contraire. C'est « Vous lirez sur la terre ce qui aura été délié dans le ciel ». C'est toujours le ciel qui commande à la terre, jamais l'inverse. Et dans ce passage, qu'est-ce qui nous permet, sur la terre, de renoncer au mensonge, à la méchanceté, à la débauche? C'est parce qu'on part d'abord d'en haut du ciel. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors du ciel, on peut avoir la puissance sur la terre. Amen. Ça, c'est la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était un petit peu de la terre montée au ciel. Mais personne n'a su, sauf un seul. Un seul est monté au ciel, celui qui est descendu, Jésus-Christ. Alléluia. Et il y est monté pour que nous montions avec lui. Et qu'assis avec Christ, nous soyons vainqueurs sur la terre. Amen. Et à chaque fois que nous n'arrivons pas à renoncer au péché, c'est parce que nous n'avons pas assez dans la foi assimilé et vécu cette position en Jésus-Christ. Tout découle de lui. Amen. Alors il y a deux sortes de péchés, très vite. Les péchés contre Dieu et les péchés contre les autres. Verset 5, c'est la débauche, les passions, la sexualité, la Bible en parle beaucoup. Les péchés sexuels, on peut se dire, je suis chrétien, c'est pas normal que je sois tenté dans ce domaine-là. Si c'est pas normal, il y a plein de textes qui servent à rien dans le Nouveau Testament. Il y a plein de textes qui disent aux chrétiens, faites attention à ces péchés-là, renoncez-y. C'est parce que c'est difficile sur la terre. Ce sont des tentations réelles. Et il n'y a que en Jésus-Christ que nous pourrons vaincre de ces choses. Alléluia. Donc des péchés contre Dieu, puis des péchés contre les autres. Ça, c'est à partir du verset 8. Il est dit, colère, animosité, méchanceté, calomnie. Ah, ça, des fois, on fait très attention au péché contre Dieu, mais on a plus de liberté au péché contre les autres. Mais non, il faut que du ciel nous comprenions que nous n'avons pas plus le droit de faire du mal aux autres. Amen. Nous ne devons pas faire de mal à Dieu, c'est certain, mais nous n'avons plus le droit de faire du mal aux autres. Je termine avec la première cachette de la Bible, vous la connaissez, c'est celle d'Adam et Ève. Ils se sont cachés. On ne sait pas où. Bon, le jardin d'Éden, normalement, c'est en Irak, après, à peu près. Aujourd'hui, c'est pas le jardin d'Éden, l'Irak, mais enfin, géographiquement, le jardin d'Éden, c'est plutôt en Irak. Et dans le jardin d'Éden, ils se sont cachés. Mais ils ne se sont pas cachés avec Christ. Ils se sont cachés avec leur honte. Ils se sont cachés avec leur remords, avec leur peur. Alors Dieu a dû les débusquer, les mettre à la lumière et les revêtir de peau. Alléluia. Nous ne nous cachons pas de Dieu parce que nous avons peur de lui. Nous sommes cachés avec Jésus-Christ en Dieu. Alléluia. Quelle grâce. Alors ne vous cachez plus de Dieu, mais soyez cachés en Dieu. Amen. Peut-être, parfois vous avez tendance à ne pas vouloir venir aux réunions, parce que vous dites, après ce que j'ai fait, il faut que je me cache chez moi. Ne vous cachez pas chez vous. Cachez-vous ici, en Dieu. Amen. L'Église, c'est une très belle cachette. Alléluia. C'est là où on est protégé, où on est béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Gloire à Dieu.